Merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Ce soir, nous parlons eh bien déjà de la succession du pape François dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Oui, car la question a vite émergé peu de temps après l'annonce de la mort du pape. Il faut dire, l'enjeu est de taille, il est colossal. Il s'agit de désigner celui qui présidera aux futures grandes orientations de l'Église. Ce sont les cardinals du monde entier qui seront réunis en conclave, qui auront cette lourde responsabilité. Qui pour succéder au pape François ? Voilà notre question ce soir. Est-ce qu'il faut s'attendre à une figure réformatrice pour faire aboutir les chantiers lancés par François ? Ou bien un pape traditionnel, conservateur, ce qui constituerait finalement peut-être le symbole des résistances qui persistent au sein de l'Église. Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités qui sont tous trois à mes côtés en studio, Éric Payet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef du Jour du Seigneur.
Oui, l'émission, la plus vieille émission, en tout cas du pape français et peut-être du monde.
Voilà, c'était important de le préciser, sur France 2, chaque dimanche. Merci. Agnès Desmazières, face à vous, bonsoir.
Bonsoir.
Historienne spécialiste du catholicisme contemporain, votre ouvrage « Sans loi ni foi ». Prêtres et violences sexuelles au cœur du système catholique. Madeleine Vatel, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité également sur ce plateau, journaliste à RCF Radio Notre-Dame. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Est-ce que, pour commencer, Éric Payet, on peut rappeler comment l'élection du futur pape va se dérouler ? Quand est-ce que ça va commencer ? Combien de temps ça peut durer pour aboutir à la fameuse fumée blanche ?
Alors, ce que l'on sait, c'est que le conclave, alors c'est un calendrier qui se met en place à partir du moment où on dit que le siège est vacant, le sede vacantum. Alors ça, c'est constaté, ça a été constaté lundi soir. Alors, c'est pas le moment du décès médicalement approuvé par les médecins, donc de lundi matin, 7h35 pour le pape François. Ça a été donc lundi soir où donc il y a eu un rite pour reconnaître que le pape est mort, avec en présence d'un personnage avec un nom mystérieux qui est le camerlingue, ouais, qui est celui qui va gérer les affaires courantes et donc qui a mis sous scellé l'appartement du pape, qui a brisé son anneau pour ne pas qu'il puisse attester d'un quelconque document. Donc ça, à partir de là, on dit que le siège est vacant. Et ce qui est prévu, c'est que le conclave puisse démarrer entre 14 et 20 jours après ce moment-là. Ce qui veut dire que ça pourrait s'ouvrir mardi prochain, ouais, entre mardi et samedi. Alors, récemment, dans les conclaves ont démarré assez tôt, parce qu'aujourd'hui, les cardinaux, pour venir au Vatican,
n'ont plus besoin de prendre un paquebot. Oui, c'est surtout ça qui retardait
l'organisation du conclave. Ça va assez vite.
Parce que le conclave, on le rappelle, ça rassemble les cardinaux du monde entier.
Ça rassemble les cardinaux du monde entier. Ouais. Mais il y a une phase hyper importante avant, c'est ce qu'on appelle les congrégations générales, c'est-à-dire, ouais, que les cardinaux vont se rencontrer, ils sont déjà 60 là actuellement au Vatican, et commencent déjà à discuter entre eux. Et ce temps, il est important parce qu'il n'y aura pas de campagne pendant le conclave. Le conclave, ils sont théoriquement... Alors, on sait bien qu'il y a des petites discussions comme ça de couloir, mais normalement, ils rentrent, ils votent, ils sortent, ouais, ils vont manger, ils dorment et ils refont la même chose le lendemain jusqu'à ce qu'il y ait la fumée blanche.
Et ils sont coupés du monde, d'une certaine manière.
Ils sont coupés du monde. Ouais. Et là, ce que l'on apprend un peu ces jours-ci, alors ça, on va voir si ça se confirme, c'est que le conclave démarrait pas mardi, mais peut-être mercredi, jeudi, ou même vendredi. Parce que
dans deux semaines, hein.
À partir du 6
mars prochain.
Ouais,
voilà.
6, 7, 8 ouais. Mai, d'accord, afin de permettre aux cardinaux justement d'avoir vraiment le temps de se connaître, de discuter entre eux. Parce qu'on va y revenir, c'est des cardinaux qui ne se connaissent pas
très
beaucoup.
Bien.
Voilà.
Et donc, on va expliquer pourquoi. Ouais.
Donc, certainement, le conclave à ce moment-là. Deuxième question, combien de temps ça dure ? Alors là, c'est... si vous avez la réponse, on vous l'apprend. Parce que sur la programmation de l'émission, c'est nous, c'est tout le calendrier.
Si on le savait, il n'y aurait pas de suspense sur la fumée blanche.
Exactement. Exactement. Par contre, la règle qui est importante et qui fait que ça peut durer, c'est qu'un cardinal, pour être élu pape, il faut qu'il obtienne les deux tiers des voix. En tout cas, pendant les 25 premiers tours. Donc, ça, c'est
combien de cardinaux votent ?
Il y en aura 135.
Ouais, c'est ça. Il faut avoir moins de 80 ans, ça, faut le préciser.
Moins de 80 ans.
C'est la seule...
Oui, alors, il y a des petits cas qui vont se poser, parce que je crois qu'il y a un cardinal qui a eu 80 ans et un jour... il va falloir statuer sur son cas, ouais, est-ce qu'on laisse voter ou pas.
Alors, Agnès Desmazières, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes en vue de ce conclave. Effectivement, 135 cardinaux, c'est un chiffre record, je crois bien.
Pour un conclave, oui, mais ouais. Dans le nombre d'électeurs, il y a eu aussi des nombres importants durant le pontificat de certains papes. Hein. Donc,
En tout cas, c'est un nombre élevé.
C'est un nombre élevé.
Et ce sera le deuxième point aussi sur lequel j'aimerais que vous vous exprimiez. Des cardinaux qui se connaissent très peu, nous disait Éric Payet. Bah pourquoi ? Parce que la plupart ont été nommés très récemment par François aux quatre coins du monde.
Ben, je dirais que ça, c'est une des problématiques nouvelles. Hein. J'insisterai d'abord sur un point. Certes, ils ne se connaissent pas, mais on a ces cardinaux de plus de 80 ans qui vont être présents, eux, au Congrégation Générale avant le conclave. Et je dirais que traditionnellement, on n'y accorde pas beaucoup d'importance. Mais dans ce cas de figure où on a des jeunes cardinaux qui découvrent la machine vaticane, ces cardinaux plus expérimentés ont des chances d'avoir de l'influence justement dans ces moments de discussion qui vont précéder le conclave. Et je pense que ça, c'est un aspect important de transition qui va marquer. Parmi ces, la géographie, hein, j'ai un peu regardé un peu la nouvelle géographie établie. Hein. L'augmentation exponentielle, c'est du côté de l'Océanie, mais à ma connaissance, j'en ai compté 4, donc ça reste peu. Mais on partait de très peu. Ouais. J'ai compté 1, pour le précédent conclave. Ensuite, je dirais qu'on a la deuxième augmentation la plus massive, c'est du côté de l'Asie. Et ouais. Je dirais que ça, c'est fort intéressant. Parce que c'est un catholicisme minoritaire et en même temps hyper dynamique. En particulier Philippines, Corée du Sud, etc. L'Afrique aussi, en fait, ouais. Ça fait partie des postes qui ont contribué à cette augmentation.
L'Afrique est le continent où le nombre de catholiques a le plus augmenté ces dernières années, devant l'Asie. Et alors que l'Europe, et c'est ça que finalement vous voulez pointer, je pense, le nombre de catholiques est en baisse.
Les Africains sont bien organisés, ils ont un symposium des conférences épiscopales d'Afrique qui fonctionne efficacement. Et je dirais, contrairement à d'autres rassemblements continentaux, Amérique latine, ça fonctionnait bien à l'époque, je ne sais pas où ça en est à l'heure actuelle, mais par exemple en Europe, la conférence de tous les évêques européens est assez inerte. Hein.
Ce que vous nous dites, pardon, c'est qu'on va aller droit au but. Il faut s'attendre à nouveau à un pape non européen.
Je dirais que c'est une vraie question qui va se poser. Ça va être un des débats avec une problématique. C'est que ces évêques non européens, parfois, ont été nommés récemment cardinaux, donc ont peu d'expérience. Ouais. Parfois, connaissent peu le Vatican. Et je dirais que ça, c'est aussi un des enjeux du pontificat du pape François. À la fin du pontificat, il y a quand même eu des crispations au niveau de sa gestion autoritaire, etc. Et qu'il y a aussi adoucir un peu les rouages de l'autorité pontificale. Mmh. Et je dirais que ça va être un enjeu tempérament, mais aussi connaissance du milieu vaticanais.
Madeleine Vatel, là, ça y est, c'est le premier héritage de François. Il a cherché à déseuropéaniser un petit peu le catholicisme. Et c'est pour ça qu'il est allé dans quatre coins du monde, en périphérie, comme ça a été souvent dit. Et ça se retrouve dans ces cardinaux qui vont nommer le futur pape, qui sont pour la première fois minoritaires, finalement, côté européen.
Oui, et justement, c'est vrai que le fait qu'il y ait peu d'Européens et qu'il y ait beaucoup, une telle diversité, finalement, dans les cardinaux, c'est aussi ce qui pourrait faire, à l'inverse, que finalement, il y ait un pape qui soit plutôt italien et qui connaisse et qui rassure finalement, qui connaisse les rouages de la curie et qui rassure. Peut être soit dans un sens, soit dans un autre. Soit on va essayer de se dire que finalement, puisque c'est si divers, il faudrait bien quelqu'un aussi qui change un peu de l'Europe. Soit au contraire, on peut chercher à être rassuré en ayant un pape qui vient de l'Union européenne, enfin du continent européen, donc peut-être encore plus de l'Italie.
Ouais. Vous dites ça parce qu'on va pas, je l'ai pas encore dit, mais je vous l'avais dit avant le début de l'émission. On va pas jouer au jeu des pronostics, c'est pas l'idée.
Mais je vous remercie parce que c'est vrai que la spéculation autour de ça, et d'ailleurs y compris chez les catholiques, ça n'aurait
pas vraiment de sens.
Pas de sens. Ou en tout cas, ça casse un peu l'idée que l'Esprit Saint intervient, même si évidemment on se doute bien qu'il y a des groupements politiques et des influences de part et d'autre.
Et quand vous parlez d'un italien, c'est parce qu'il y a effectivement un nom qui émerge peut-être plus que d'autres.
Oui. Vous pensez auquel?
Pietro Parolin, Parolin,
ouais,
le numéro 2 du Vatican.
Le numéro 2 du Vatican.
Est-ce qu'on peut dire que c'est celui qui est le plus attendu?
En tout cas, c'est celui que tout le monde connaît et a repéré. Parce que, comme le disait mon confrère, en fait, c'est vrai qu'ils ne se connaissent pas toujours et que donc tous ces rendez-vous, là, tout le monde dit qu'ils seront partout dans toutes les pizzerias de Rome. Ça va aider à ce qu'ils fassent connaissance. Après, moi, je trouve que c'est ce qui est fascinant. Qu'une telle organisation regroupe des gens qui viennent du monde entier. Ça, je trouve que c'est fascinant. 1 milliard de catholiques et des gens qui viennent du monde entier parce qu'ils représentent leur église. C'est fabuleux, quoi.
Et finalement, et c'est en ça que ça sert à rien de jouer au jeu des favoris, c'est qu'en fait, l'histoire a montré que des noms absolument pas attendus sont devenus des personnes qui des futurs papes.
Bah Jean-Paul II, on s'attendait pas à avoir un non-italien.
Ouais.
Finalement, après Ratzinger, donc Scola n'a pas été élu. Enfin, en fait, l'histoire des favoris montre que, comme le dit le dicton, quand on entre pape, on sort cardinal. Quoi. Pas trop jouer sur les paris, quoi. Mais ouais. Oui, il y a beaucoup de surprises. De toute façon, même le pape François, c'était une surprise en quelque sorte.
Et Éric Payet, alors c'est intéressant, Pietro Parolin, là, ce numéro 2 du Vatican, ouais. Et pour rejoindre ce que dit Madeleine Vatel, est-ce que ça peut être un petit peu cet Européen qui rassure dans ce collège de cardinaux venus du monde entier qui ne se connaissent pas et qui sont peu Européens?
Alors en tout cas, pour ceux qui jouent au jeu des pronostics, ce qui n'est pas mon cas non plus, je suis très mauvais, même si j'ai parié sur Ratzinger, ça fait quelques années, mais voilà, c'est un fait de gloire que je me donne.
Un point.
Il a l'avantage, Parolin, de connaître chacun d'entre eux. Il a été le numéro 2 de François, donc il connaît la gouvernance, il sait la gérer. Donc ça reste un peu celui qui revient dans toutes les listes de ceux qui font des paris, qui ont dit non. Voilà, Parolin, il revient toujours en position 3-4, mais voilà, il n'y aura pas de position 2 et pas de position 3, il n'y a qu'un seul élu. Hein.
Mais au-delà du nom, parce qu'il y a d'autres noms italiens ou européens qui circulent, est-ce que... c'est pour poursuivre ce que disait Madeleine Vatel. Est-ce que vous voyez justement, alors qu'on attend peut-être encore un non-européen, parce qu'il y a plus de non-européens parmi les cardinaux que d'européens, est-ce qu'à contrario, comme le disait Madame Vatel, un européen pourrait être nommé pour créer de la cohésion là où il risque d'en manquer possiblement?
Alors, la question de la cohésion, elle est essentielle. Moi, je pense qu'en effet, s'il y a quelque chose qui ressort aujourd'hui de ceux qui cherchent l'axe sur lequel va se jouer le conclave, parce qu'on ne sait jamais trop. On projette toujours l'idée simplement des conservateurs face aux réformateurs. Et quand on découvre bien des années après ce qui a pu se passer dans les conclaves, on se rend compte que ce n'est pas forcément la même chose. Par exemple, pour le pape François, qui était classé réformateur, ça a été certainement une question qui s'est jouée à l'intérieur du conclave, qui était plus de se dire comment est-ce que on remet la curie à sa place. C'est-à-dire qu'il fallait une figure forte qui vienne d'un épiscopat local et qui ait la capacité de dire aux cardinaux qui siègent dans la curie, c'est-à-dire le gouvernement de l'Église rassemblé au Vatican et qui avait pris le pouvoir vraiment dans l'Église, comment, voilà, il faut trouver une figure forte qui est capable de les remettre en ordre de marche. Il y avait pas mal de scandales à ce moment-là. Ouais. Et l'aspect réformateur de François a pesé certainement.
Était nécessaire à ce moment-là.
Mais c'est surtout sa poigne. Et c'est peut-être son côté autoritaire qui était cherché à ce moment-là.
C'est moins le cas aujourd'hui ?
Bah, disons qu'il a remis les choses à leur place, je pense.
Il n'a pas achevé les chantiers. Alors ça, c'est le cœur de notre débat. Est-ce qu'il y a plein de réformes qui sont en cours ? Alors, la lutte contre les abus sexuels, ce n'est pas achevé. Oui. L'accueil au sein de l'Église des divorcés, remariés, ce n'est pas achevé. La bénédiction des personnes homosexuelles, il avait donné le feu vert, mais ça a été rejeté par une grande partie des évêques. Ce n'est pas achevé.
Alors, c'est pas achevé. Il y a des choses qui sont en chemin. Et c'est vrai que ça, c'est la grande question qu'on peut se poser. C'est de se dire, qu'est-ce qui va être non négociable de l'héritage des papes François? Moi, je pense qu'il y a ce grand chantier quand même du synode à synodalité. Ce terme est absolument affreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'Église pense aujourd'hui que justement son gouvernement doit être plus, démocratique. Enfin, en tout cas, qu'il soit... Que les églises locales pèsent plus sur la gouvernance de l'Église. Et surtout qu'on a décléricalise. Ça donne ce mouvement avec plus de femmes, des laïcs. On voit des postes aujourd'hui au Vatican qui commencent à être donnés. Alors, c'est un tout début. Mais ça, ce mouvement-là, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Moi, j'ai le sentiment que non. que ça, ça ne sera pas négociable. Ou alors c'est un vœu pieux, je ne sais pas.
Et vous, Agnès de Mazières, vous en pensez quoi? Revenir en arrière dans le sens, est-ce que après le réformateur François, on peut avoir un traditionnel, un conservateur?
Je dirais que un premier point sur la question de la curie, il me semble aussi que parmi les potentiels, ça peut être aussi, je veux dire, un non-italien qui fasse partie de la curie. Je dirais que ça, c'est aussi un enjeu. Parce qu'il n'y aura pas forcément envie non plus, du point de vue des cardinaux, d'un retour à un contrôle italien sur la curie, notamment quand même avec un certain nombre d'affaires financières où des cardinaux italiens ont été impliqués. Je ne suis pas sûre que d'un point de vue d'un souci de transparence, ça fasse l'unanimité de ce point de vue-là, ou du moins ils vont devoir avoir des sécurités. Et j'avais que ça, pour moi, c'est un autre enjeu, en fait, derrière tout ça. C'est qu'on connaît peu ces cardinaux, mais coup, on sait peu d'eux. Et on ne sait pas très bien ce qu'il y a eu par le passé. Et je dirais que je serais assez prudente, justement. Les choix du pape François qui ont été faits quand même sous un angle affectif pour aller aux périphéries. Mais parfois, du coup, on ne sait pas grand-chose de leur capacité à gérer aussi. Parce que quand on est dans un petit diocèse, ce n'est pas la même chose que quand on gère une capitale et après passer à l'état du Vatican. Je dirais qu'il y a des questions qui vont se poser aussi au niveau de la gestion financière. La question des violences sexuelles aussi. J'irais aussi la prise de position politique, parce qu'on voit ressurgir là, en dépit de l'enthousiasme et de l'émotion pour le pape François, les histoires, son rapport à la dictature, etc., qui n'a jamais été élucidé. Et je crois qu'il y a des vraies attentes de transparence. Et je dirais que là, c'est une vraie question qui se pose, surtout que les délais sont rapides. Et enfin, moi, ce que je signale, et quand même, je pense qu'il y aurait intérêt quand même à faire un travail journalistique, quand même, que chaque pays s'engage un peu à regarder un peu de plus près les profils, parce qu'on reste très innocent sur les profils, on les exalte, etc. Mais au vu de toutes les affaires qu'on a eues, y a quand même, on aurait quand même intérêt à aller voir de plus près, surtout qu'une fois que le pape est sacré, et il n'y a plus rien. Quoi. Et on attend la mort, comme... nombre de scandales qu'on a eu récemment aussi en France. Quoi. Voilà.
Ce qui fait d'ailleurs que c'est une personne, en général autour de 70 ans, qui est nommée. Compliqué de nommer quelqu'un qui a, sachant que c'était le précédent, c'était Jean-Paul II, 25 ans de pontificat. Mais globalement, les personnes, les papes nommés ne sont pas tout jeunes, parce qu'effectivement, c'est censé aller jusqu'au décès.
Pas tout jeune, et puis aussi avoir fait monter toutes les étapes. Je dirais qu'il y a aussi un apprentissage de la fonction, d'abord épiscopale, puis cardinaliste.
Pour avoir émergé aussi, pour être connu. Et c'est vrai que là, le pape François, on dit souvent qu'il a cassé les codes, mais il a fait des nominations qui ont cassé complètement les règles. Par exemple, je crois que c'est au Brésil où il a nommé cardinal un évêque auxiliaire. Donc, vous imaginez, il a son évêque qui n'est pas cardinal et qui est le supérieur de son évêque auxiliaire qui, lui, a été nommé cardinal. Ça, c'est un exemple. Puis, par exemple, en France, on le sait souvent, on avait la tradition d'avoir des sièges cardinalistes, c'est-à-dire Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille. Et bien là, le pape François, vous avez qu'à regarder, il a décidé que non, c'est pas parce qu'on était un évêque d'un lieu qu'on obtenait systématiquement la barrette, donc le titre de cardinal.
Agnès Desmassières, je vous redonne la parole, parce que quand vous avez évoqué au début de votre intervention précédente, un non-italien faisant partie de la curie, ça veut dire quel profil?
Ça peut être un Européen ou des pays du Sud, mais qui a connaissance des rouages et qui a de l'expérience.
Mais quelle ligne?
Je dirais que la ligne, c'est complexe, hein. Réformateur, conservateur, ça dépend des sujets. Vous allez voir la question des migrants, vous allez voir les questions de morale sexuelle, vous n'aurez pas les mêmes prises de position. Et même selon les pays, les catholiques ne sont pas exactement sur la même ligne. Hein.
Et puis, on a souvent ce Paris. Je le vois bien dans les débats actuels, on essaye de calquer une grille... gauche-droite, qui est une vue politique, en plus chez nous françaises, sur des questions qui ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, on va dire, mais on ne comprend pas, on a le même qui va se prononcer à la fois pour les migrants et contre l'avortement. Ah oui, mais pour eux, c'est une continuité, c'est la question de la vie, du respect de la personne, et ça, voilà, on se casse souvent la perception de leur cohérence en voulant plaquer une grille qui est qu'une grille politique.
Et d'ailleurs, effectivement, François, il était réformateur globalement, mais il a pu aussi avoir des positions.
Ah bah sur l'avortement, il y a des mots qui sont.
Et puis j'ajouterais qu'il y a aussi des enjeux géopolitiques et qui pensent aussi en fonction de leur contexte national, la question des conflits, de la paix dans le monde, etc. Des populations, surtout quand ils sont minoritaires aussi, ça va jouer. Par exemple, en Asie, le Moyen-Orient a souvent sa propre stratégie aussi. Donc, je dirais qu'il faut voir aussi les enjeux nationaux. Et c'est des personnes qui sont aussi humaines et qui ont, je dirais, aussi leurs attaches nationales. Et puis, il va y avoir aussi la question du tempérament aussi, mine de rien. Ils vont se fréquenter pendant 15 jours et puis le caractère de l'un ou l'autre peut peser, quoi.
Qui pour succéder au pape François, la question qu'on pose, évidemment au lendemain de la mort à 88 ans de François. Mes trois invités sont Éric Paillet, rédacteur en chef du Jour du Seigneur, Agnès Desmazières, que l'on entendait, qui est historienne spécialiste du catholicisme contemporain, autrice du livre « Sans loi ni foi, prêtres et violences sexuelles au cœur du système catholique » et Madeleine Vatel, journaliste à RCF Radio Notre-Dame, à qui je donne à présent la parole. Qu'est-ce que ça signifierait pour vous, Madeleine Vatel, si on avait justement... Un pape plus traditionnel, plus conservateur, qui prendrait le relais de François, davantage réformateur. Est-ce que ça voudrait dire, finalement, ce serait un symbole pour vous des résistances qui sont majoritaires aujourd'hui au sein de l'Église, pour ne pas faire aboutir justement les réformes qu'on a évoquées, l'accueil au sein de l'Église des divorcés remariés, la bénédiction des personnes homosexuelles, par exemple?
Alors, simplement, je rebondis parce que vous disiez qui pour succéder. Et finalement, je trouve que la question qui se pose aussi après le pape François, c'est comment pour succéder. Parce que, en fait, le pape François, avec son style, sa proximité, sa manière aussi d'habiter le Vatican et sa simplicité qui s'est quand même traduit par des actes et qui a aussi été un feu vert quelque part pour le clergé qui peut plus trop s'autoriser non plus des grands fastes. Moi, j'ai vu des évêques finalement quitter les grands appartements. Du diocèse pour aller dans des appartements plus petits, etc. Ça a quand même donné une impulsion. Donc, est-ce qu'il y aura un retour arrière aussi sur ce mode de vie, ce comportement? En tout cas, ça aussi, c'est un peu entré l'esprit aussi des laïcs et des pratiquants, de se dire que finalement, le pape l'a fait, donc maintenant, ça suffit aussi un peu les grands fastes. De toute façon, l'Église n'a plus beaucoup d'argent. Donc
il y a aussi les voix qui ont dit, et ça va être aussi une question du futur pontificat, il y a des voix qui sont élevées pour dire il a un petit peu déshonoré, entre guillemets, la fonction en voulant la dépouiller, justement, en la voulant la rendre la plus simple possible. En cassant ce faste, justement.
Oui, alors ça dépend de quel honneur on parle. Finalement, est-ce que c'est l'honneur qui est demandé par l'Évangile? C'est ça la question. Donc,
ça aussi séduit.
Voilà, ça aussi séduit. Ça aussi séduit. Donc, effectivement, alors après, vous posiez la question, qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir des conservateurs?
Dans le sens où, en fait, et est-ce que... Enfin, si on va, encore une fois, on ne joue pas au jeu pronostic, on ne va pas jouer au jeu des statistiques non plus, mais le passé nous a appris que, après Jean-Paul II, qui était peut-être plus réformateur que l'autre, il y a eu Benoît XVI, et après, il y a eu le pape François.
Oui, mais vous verrez qu'il y a quand même aussi une ligne doctrinale qui a très peu bougé, finalement, avec le pape François, qui a eu une approche pastorale, en effet, assez décapante. C'est-à-dire, je veux dire par là, qu'il s'est approché des gens, mais aussi dans leur quotidien et dans ses écrits, on perçoit vraiment qu'il rencontre ces gens divorcés, ces familles éclatées, ces migrants qui souffrent. Il est allé au plus proche. Après, sur la doctrine, on le disait, finalement, il n'a pas fini les chantiers. C'est ce que vous évoquiez aussi. Donc, il a posé les questions. C'est clair, par contre, il a eu le mérite de mettre les pieds dans le plat de beaucoup de questions qui étaient un peu effleurées, en tout cas qui, dans la société, étaient complètement présentes, mais qui, dans l'Église, étaient toujours un peu taboues, un peu comment on approche ça, etc. Bon, lui, il a au moins posé les grandes questions. Après, il y a eu déception sur les réponses pour beaucoup.
Et c'est pour ça, est-ce qu'elles peuvent aboutir, ces réponses, selon vous, avec le futur pontificat?
Ça, c'est toute la question de celui qui interviendra. Est-ce que ça aurait un sens aussi? Par exemple, vous posiez la question de l'avortement. L'Église, elle aura du mal à revenir sur le fait qu'elle considère que la vie est présente dès le début et que la vie, c'est sacré et qu'on n'y touche pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'Église devra toujours être aux côtés de ceux qui souffrent et de ces femmes qui peuvent souffrir avant, après ou qui se questionnent. Donc, il y a toujours un peu ce point-là de où se trouve l'Église. Normalement, elle est toujours à côté de ceux qui souffrent. Elle est à côté de la personne divorcée qui a du mal à vivre aujourd'hui sa nouvelle situation.
Éric Paillet, c'est le consensus qui va l'emporter, finalement. Un homme de consensus à attendre du futur pape.
peut-être, mais pour revenir, c'est vrai, sur cette question du dogme et de la façon dont pape François s'est affiché, moi je garde toujours une expression très forte du pape François qui donne la cohérence à son pontificat, c'est la question de l'hôpital de campagne. C'est-à-dire qu'il n'a jamais remis en cause la ligne de l'Église dans ses dogmes, mais lui est arrivé, il a dit aujourd'hui on arrive dans un monde en crise, et l'Église, elle doit accueillir, elle doit... Voilà, celui qui se présente tel qu'il est, avec son histoire, avec les choses qui peut-être nous dérangent d'un point de vue dogmatique dans l'Église, mais qu'est-ce qu'on fait pour lui ? Ouais. Et c'est cette proximité-là qui a été extrêmement forte pour François. Je pense que ça va être difficile aujourd'hui d'incarner un... En tout cas, avec une aura aussi forte que le pape François, d'incarner cette fonction de pape si... on redevient une église qui dit non, une église qui condamne, ça va être très compliqué.
Oui, mais en même temps, je dirais qu'il y a une vraie question d'unité, parce qu'on voit que ces questions-là ont quand même énormément crispé ces dernières années. Je dirais pas la première partie du pontificat, je dirais l'accueil des divorcés remariés, etc. Ça a été compliqué, mais malgré tout, c'est passé. La deuxième partie du pontificat a été quand même nettement plus compliquée sur ces questions et sur d'autres. Et je dirais qu'on a quand même parlé de schisme, et je dirais que ça va rester aussi à l'esprit des cardinaux ces jours-ci. Et je dirais que derrière tout ça, il y a une tension aussi entre universalité et décentralisation, parce qu'on voit bien que suivant les continents, les réponses sont différentes à ces questions-là et à la prise de parole du pape François. Notamment, les évêques africains l'ont manifesté très clairement sur la question de l'homosexualité. Ouais. Et je dirais qu'il va se poser la question, dans quelle mesure l'Église peut rester universelle tout en... ouvrant la porte à une diversité de pratiques. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est vraiment l'évangile aussi, je dirais ? Et est-ce que c'est pratiquement possible dans un contexte de migration aussi, hein ?
Et vu ces risques de division, et on en revient au conclave qui s'annonce dans une quinzaine de jours, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il soit tendu, ce conclave ? Éric Payet ?
Ça, c'est une grande question. Et comme malheureusement, on aura du mal à regarder par le trou de la serrure de cette porte fermée, on ne le saura que dans très longtemps.
Est-ce que tout porte à croire que, encore une fois, les risques de division de l'Église, vous évoquiez, des cardinaux qui se connaissent peu, des cardinaux qui viennent du monde entier, qui ont été nommés il y a peu de temps par François.
Très honnêtement, il va falloir regarder vraiment ce qui va se passer pendant les congrégations générales. Comme je vous disais, il n'y a pas de campagne, mais c'est le moment aussi où il y a des voix qui vont émerger. Et peut-être, il y a quelqu'un qui va incarner tout autre chose que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, et qui tout d'un coup va en effet rassembler autour de lui, parce qu'encore une fois, celui qui va être élu, il faut qu'il ait 90 personnes qui votent pour lui. Hein. C'est les deux tiers, c'est énorme. Donc, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment, rassemble plus largement que les clivages dont on parle. Et ça va être tout l'enjeu du conclave. Alors, tendu, j'en sais rien, mais il peut être long.
Ça peut durer longtemps, et en tout cas, qui pour succéder au pape François, on ne prévoyait pas d'apporter une réponse, mais on a bien compris que les cartes sont... Voilà,
sont bien rebattues.
Exactement. Ça peut être un Européen, ça peut être un non-Européen, un homme de consensus, un réformateur, un homme plus traditionnel. Tout est possible. Et c'est ce qui est intéressant. On suivra tout ça de près, évidemment. Merci beaucoup à vous trois. Éric Payet, rédacteur en chef du Jour du Seigneur. Agnès Desmazières, historienne spécialiste du catholicisme contemporain. Et Madeleine Vatel, journaliste à RCF, Radio Notre-Dame. Arnold Dassewa était à la préparation de ce débat ce soir. Merci à lui. Et Hélène Avril à la réalisation. N'oubliez pas RFI.fr pour retrouver en podcast le débat du jour. Et puis merci à la documentation également de Radio France Internationale.
RFI.
Allez, dans une grosse minute, ce sera le grand journal du soir avec Christophe Paget. Et le dossier, eh bien, sera consacré ce soir aux inquiétudes pour l'économie mondiale qui ont été exprimées aujourd'hui par le FMI, le Fonds Monétaire International. 30 minutes plus tard, ce sera Afrique Soir, la première édition. Zéphirin Quadio, bonsoir.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Coup d'œil au programme ce soir, et en Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane Thiam, radié de la liste électorale.
Et oui, la justice estime que le chef du principal parti d'opposition a perdu sa nationalité ivoirienne. Cette décision de justice, qui n'est pas susceptible de recours, ferme ferme donc pour l'heure la porte à sa candidature à 6 mois de la prochaine présidentielle.
Autre titre, le début des célébrations du 50e anniversaire de la CEDEAO.
Coup d'envoi ce mardi à Accra, au Ghana, l'anniversaire de l'organisation régionale créée le 28 mai 1975. Sera notamment marqué par une série d'événements tout au long de l'année dans l'ensemble des pays membres.
En RDC, le PPRD, le parti de l'ancien président dont les autorités ont suspendu les activités, eh bien répond aux accusations du pouvoir.
Oui, le gouvernement dénonce l'activisme de l'ancien président dans la guerre d'agression et le silence coupable de son parti. Accusation que le PPRD rejette dans une correspondance adressée au ministère de l'Intérieur.
Eh bien, rendez-vous dans 30 minutes.